Bien, quand on veut faire un cadeau à quelqu'un qu'on aime, est-ce qu'on fait ce qui nous plaît? Malheureusement, des fois, on fait des cadeaux qui nous plaisent à nous. Mais en fait, normalement, on devrait faire un cadeau en réfléchissant à ce qui fait plaisir, ce qui est agréable à la personne à qui on l'offre. Ça semble une évidence. Pour ça, il faut le connaître. Il faut connaître la personne. Il faut chercher à l'observer, à l'écouter, ben oui, tout simplement la connaître. Alors, on va lire juste un verset en introduction, Romains chapitre 12, verset 1. Vous connaissez bien ce verset, et ça va être un peu ce verset, il y a un mot qui va être le fil conducteur de notre partage de ce matin. Donc, bon, normalement, Romains 12, on le connaît par cœur, hein. On a entendu bien des fois, mais on est surpris en relisant, de faire attention à des choses auxquelles on n'avait pas prêté attention jusque-là. Alors je vais d'abord prier et ensuite on va avoir ce partage. Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu t'es donné, tu n'étais pas simplement un petit cadeau, tu as donné ta vie, tu t'es sacrifié, tu as tout donné pour que nous soyons sauvés, racheté, justifié, et qu'on puisse passer l'éternité ensemble. Alors je te prie, Seigneur, que en retour de tant d'amour, d'un si grand et si précieux cadeau, et que nous, on ait un cœur disposé à t'écouter et à savoir ce qu'on peut faire en reconnaissance et dont tu es digne, toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Romains 12, 1, je vous exhorte. Donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tout à l'heure, on va revenir sur ce verset. Donc, je ne lis pas tout, là, je l'utilise juste en introduction pour qu'on relève ce qui m'intéresse aujourd'hui, agréable à Dieu. Le titre de ce message, c'est Lui. Être agréable. Malheureusement, trop souvent, on cherche ce qui nous est agréable, même dans le service, parfois même dans l'église, même dans nos vies, pensant le servir. Des fois, on ne fait pas exactement ce que lui aimerait qu'on fasse. Donc, j'aimerais que le Seigneur ramène un peu à ce qu'il aime vraiment. Voilà, si vous avez envie de faire un beau cadeau à quelqu'un, ben, il faut regarder, écouter. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va voir, et je verrai en fonction du temps. J'ai un message qui a beaucoup de points, mais on pourrait le simplifier un peu. Mais tout bêtement, on va voir ce qui, lui, est agréable. Et moi, j'avais bien sûr en tête, quand on a l'habitude de prêcher des messages, on a une petite concordance dans la tête. Donc, le mot lui être agréable, j'ai au moins trois versets qui me sont venus instinctivement à l'esprit. Mais après, j'ai regardé quand même une concordance sur un ordinateur. Et on est surpris que le mot agréable pour Dieu, hein, je ne parle pas de ce qui nous est agréable à lui, mais agréable pour Dieu commence très vite dans la Bible. Et il y a une constante vraiment dans les premiers chapitres, plein de versets qui disent ce qui est agréable à Dieu. Et on peut être surpris de ce qui est agréable à Dieu. La première chose, on va le voir, Genèse chapitre 8, verset 20, c'est la première mention du mot agréable à Dieu. Donc, Genèse, si vous avez vos Bibles, c'est bien. Si vous me faites confiance, c'est bien aussi. Mais c'est bien d'avoir sa Bible aussi quand on peut. Genèse chapitre 8, parce que quand on voit la chose écrite, c'est bien. Parce que des fois, le prédicateur, c'est comme une chanson qu'on écoute, dont on connaît le son, et on ne fait pas autant attention au texte. Donc, Genèse chapitre 8, verset 20. Voilà, verset 20 et 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il fit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Bon, on ne va pas faire une étude biblique, mais relevons que la première fois qu'il est question de quelque chose qui plaît à Dieu, qui lui est agréable, c'est un parfum, c'est une odeur. Il vient d'y avoir quelque chose de terrible, Noé, la destruction de l'humanité. Et juste après ça, Noé fait un sacrifice d'animaux. Et Dieu dit que l'odeur lui est agréable et qu'il dit il n'y aura plus jamais. Plus jamais. Bon, on sait qu'il y a l'arc aussi, l'arc-en-ciel, qui est le signe qu'il n'y aura plus jamais de destruction de la même manière par l'eau. Mais intéressant, un parfum. Alors voilà, si vous voulez une idée de cadeau pour le Seigneur, Dieu aime les parfums. Et je ne dis pas ça parce que c'est une seule fois, mais je vous disais que plusieurs livres dans l'Ancien Testament reprennent cette idée d'un sacrifice, d'une odeur qui monte à Dieu et qui lui est agréable. Je vous en donne un deuxième, juste un deuxième. Exode 29, verset 18. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel, et c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et après, vous prenez le livre des Lévitiques, chaque fois qu'il y a un holocauste, chaque fois, et vous savez, le Lévitique, c'est une répétition des sacrifices, il y a 5 types de sacrifices, il y en a qui sont pour la culpabilité, il y en a qui sont de fines fleurs, de farine, enfin, et ça, c'est plutôt, c'est pas des sacrifices sanglants, mais les sacrifices sanglants sont de bonne odeur, agréables à Dieu, et à chaque fois. Donc ça lui plaît, c'est la donnée qu'il faut retenir. Dieu aime le parfum, il aime le parfum du sacrifice. Et il aime le parfum en particulier des holocaustes. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut faire... lundi, on a mangé des bonnes choses, mais on n'a pas fait de méchoui, on n'a pas fait un agneau. On aurait pu, et je peux vous dire que l'odeur est... Enfin, mes enfants diraient qu'on est des viandards, excusez-moi l'expression, mais il y a quand même une odeur. Hein, la viande grillée, c'est une odeur... très attirante. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10, qui à la fois parle de sacrifice, mais à la fois, tout en nous parlant d'odeur, nous montre qu'il y a une autre odeur qui plaît à Dieu aujourd'hui. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréé, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'odeur des sacrifices physiques à Jérusalem ou je ne sais où qui est l'agréable odeur. Dieu a dit, tout ça c'est aboli. Maintenant, c'est l'odeur de Christ, son sacrifice qui est d'une agréable odeur au Père. Pourtant, c'était son propre fils qui était sacrifié. On pourrait dire qu'il devrait être au contraire repoussé par ça. Mais ça lui était agréable parce que le fils l'a consenti. Il a donné sa vie, on ne l'a pas prise. Et aussi parce que par ce moyen-là, l'humanité entière peut être rachetée, sauvée. Et c'était pour ça que le Père a donné son fils et que le fils a donné sa vie pour que monte enfin une agréable odeur sans qu'il y ait des sacrifices d'animaux. Donc voilà. Et maintenant, en tant que chrétien, 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 2, pardon, 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. Ceux qui ont une petite concordance dans leur tête voient à peu près où je veux en venir. Non ? Vous connaissez bien ce verset qui parle de parfum, 2 Corinthiens. Chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Voilà. C'est nous les chrétiens. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous rentrez dans une galerie commerciale et qu'il y a une boutique de brioches. Vous savez ce qu'ils font ? Ils ont des ventilateurs qui soufflent l'air de la brioche dans toute la galerie. Et vous savez, enfin, vous voyez comme moi quel est le résultat. Cette odeur, elle est terrible parce que on est attiré par cette odeur-là. Ben, c'est nous les ventilateurs, entre guillemets, de l'odeur de Christ, de son parfum. Nous sommes le parfum de Christ. C'est nous, en partageant la parole de Dieu, en partageant nos témoignages, en faisant tout ce qu'on peut faire pour répandre l'odeur de sa connaissance, c'est nous qui sommes le parfum de Christ. Alors ça ne veut pas dire que les gens aiment, certains trouvent que c'est une odeur de mort, on est d'accord, mais d'autres vont trouver que c'est une odeur de vie et ils vont venir à la vie. Donc on ne doit pas retenir cette odeur dans ce bâtiment, dans ce local, on ne doit pas fermer les fenêtres, on ne doit pas rester entre nous, on est là pour être le parfum répandu. Il n'y a que comme ça qu'on peut attirer les gens, en étant ce parfum. Voilà. Donc, si vous voulez offrir un cadeau qu'aime le Seigneur, qui lui est agréable, ben, ça en fait partie. Répandre le parfum de Christ. On n'est pas là pour répandre le parfum de l'Action biblique ou des baptistes ou des frères. Peu importe ce que les gens pensent de ça. Mais le parfum de Christ. Rappeler son sacrifice à la croix. Rappeler le moment où il a été immolé pour nos péchés. Rappeler qu'il est l'agneau de Dieu immolé. C'est ça, répandre le parfum de sa connaissance. Et c'est à ça que nous servons. Nous sommes plutôt que des ventilateurs, des vaporisateurs, si vous préférez. Des vaporisateurs pour le parfum de Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On vient de voir un aspect du parfum, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on est dans un langage qui nous plaît. C'est imagé, c'est poétique, le parfum, nous sommes le parfum. Ben, revenons à Romains 12. Comme ça, ça va mettre des pensées sur cette idée-là. Parce que nous aimons la poésie, mais on n'aime pas trop la mise en pratique en général. Alors voilà, on va voir les trois versets qui viennent immédiatement à l'esprit sur l'idée de ce qui est agréable à Dieu. Donc, on relit ce verset, je pense que ça vaut la peine de le relire. Je vous exhorte donc, c'est une exhortation, hein, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Déjà, qu'est-ce qui doit nous pousser ? Ben là, Dieu dit que c'est par les compassions de Dieu. Ce qui doit nous pousser à nous offrir, on pourrait dire, mais vous ne nous appartenez plus à vous-même, donc c'est la moindre des choses. C'est, comme il est dit là, un culte raisonnable. Puisque vous avez été racheté, vous ne vous appartenez plus, donc c'est un peu normal que vous serviez à celui qui vous a racheté. C'est la moindre des choses. C'est un dû. C'est presque légal. Mais le Seigneur, là, nous emploie plutôt ces mots par les compassions de Dieu. Que ce soit sa compassion, son amour pour les âmes qui nous entourent, pour nous-mêmes même, parce qu'on va voir en disant ça, parce que vous savez, faire un cadeau, et quand c'est s'offrir soi-même, on a l'impression que c'est un sacrifice, quoi. Enfin, c'est dur. Mais c'est un sacrifice vivant, déjà, que le Seigneur attend de nous, vivant. Voilà, qu'on n'ait pas l'impression que le sacrifice, c'est « Ah, maintenant je sers le Seigneur, je vais souffrir, ça va être dur. » Il y a des versets qui parlent de souffrance, c'est vrai. Mais le Seigneur veut qu'on soit un sacrifice vivant. Là, nous ne sommes pas là. Avec peut-être ce mot-là, il y a l'idée des sacrifices. Il y avait des sacrifices sanglants, donc culpabilité et holocauste, et puis des sacrifices d'offrande, d'action de grâce. Voilà. Et ceux-là n'étaient pas nécessairement sanglants. Ils étaient même associés à de la farine. Là, c'est encore Christ, la farine, bien sûr. Mais voilà, le Seigneur ne demande pas quelque chose d'écrasant. Moi, je trouve, j'en parlais avec des frères hier au téléphone, quand on parle de servir le Seigneur, il faut se rappeler que son joug, à lui, il n'est pas pesant, il est léger et il est doux. Et des fois, on voit quelque chose à faire comme écrasant, c'est dur et ça va être difficile. C'est il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris de ce qu'attend le Seigneur de nous. On oublie que le Seigneur a dit non, mon joug à moi, il est doux. il est léger. Donc si tu as l'impression que quelque chose est écrasant, oui, il faut se charger de sa croix, mais je la rendrai légère parce que c'est moi qui la porte avec toi. Enfin, voilà, le service du Seigneur est quelque chose de vivant et ne devrait pas être quelque chose qui nous fait peur. On verra après pourquoi. Donc quoi qu'il en soit, c'est sain et c'est agréable à Dieu. Je ne sais pas, mais quand vous faites des cadeaux, est-ce que ça vous fait plaisir ? Pourtant, c'est agréable à l'autre, mais ça nous fait plaisir, non ? Vivre une vie qui est agréable à Dieu, en soi, c'est une joie. Vivre une vie égocentrée, frustrée, fatiguée, lassée... Si le Seigneur, si on sait qu'on devient enfin utile, qu'on se détourne de ce désir de toujours se faire plaisir à soi depuis si longtemps qu'on fait ça et que ça ne marche pas, ben si d'un coup on comprend qu'être utile et faire quelque chose pour celui qui nous a racheté, qu'on aime, vivre pour lui, c'est une bénédiction d'être agréable, agréable à Dieu. Et peut-être que des fois, les gens ne voient pas certaines choses qu'on fait pour lui. Mais peu importe. Tout à l'heure, je suis passé devant une salle. Enfin, c'était un garage, en fait. Mais j'ai entendu une femme qui chantait à l'intérieur. J'ai tendu l'oreille. C'était en anglais. Et j'ai levé la tête. Et j'ai vu... Bon, c'était une salle évangélique, Glory, je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Mais elle était toute seule. La porte du garage est fermée. Elle chantait pour le Seigneur. Ben, le Seigneur entend. Voilà. Donc, nos vies offertes, c'est la moindre des choses, c'est agréable à Dieu. Mais si on lit la suite, ben, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, une vie qui plaît à Dieu, déjà, c'est une vie qui ne se conforme pas au monde. Et qui est transformé, comment on se transforme ? Comment on peut être différent du monde ? Si on passe son temps à se nourrir des choses du monde, qu'est-ce qui va se passer ? On va ressembler au monde, dans nos manières d'être, nos manières de parler, nos réactions. C'est normal, on est comme ça. Nous sommes, je ne sais pas si on réalise à quel point, nous ne sommes aujourd'hui que ce que nous avons mangé un jour. Vous savez tout ça, enfin, on parle des lipides, des glucides, mais les protéines... C'est ce que nous avons mangé un jour est devenu ce que nous sommes. Nous ne sommes que des choses que nous avons mangées un jour. On était petits comme ça. Et aujourd'hui, on est comme ça. Donc, si vous voulez ressembler au monde, nourrissez-vous du monde, vous lui ressemblerez. Nourrissez-vous, renouvelez votre intelligence de la pensée du Seigneur, de sa parole, de le servir. Et vous verrez que vous serez transformés plutôt à son image qu'à celle du monde. Soyez transformés. C'est le même mot, conformés. Ou transformer. Ah oui, mais j'entends parfois, oui, mais moi, à mon âge. Mais arrêtons ça. Ce n'est pas une question d'âge. On a le privilège. Vous savez, je faisais du sport autrefois. Je ne vais plus aller sur un terrain de foot, de rugby ou de volley. Il y a une évidence physique. Mon corps ne le peut plus. Il y a des buts qu'on se fixe qu'on ne pourra tenir que pendant quelques années. Mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence... n'est pas du tout lié à notre âge. Et ça ouvre toutes les perspectives, et c'est merveilleux. Moi, je fais... Il y a une activité physique que je peux encore faire, c'est marcher. Mais je marche. Et il y a une rubrique dans notre existence où on peut encore faire des progrès, où on peut encore être transformé. C'est être transformé à l'image du Fils de Dieu. Il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de trop tard, il n'y a pas de c'est plus la peine. Ça ne dépend que du renouvellement de notre intelligence. Ça ne dépend que de notre vie avec le Seigneur, et on va le préciser même après encore. Donc, et puis rappelons-nous que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, donc cherchez la volonté de Dieu, la discerner, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi avons-nous peur avec un message qu'on se prenne quelque chose sur le coin de la figure ? Excusez-moi l'expression. Il y a des versets, des textes que je vais lire, je me dis, je ne vais peut-être pas les lire parce que ça va décourager ou ça va faire peur. Je trouve ça dommage. Vous dites non, mais on peut faire ça aussi. Alors là, la deuxième partie du message, on verra comment on réagit. Mais la première partie, bon, agréable et parfait. Si on vous invite à un restaurant, on vous dit c'est bon, agréable et parfait, est-ce que vous y allez à reculons ? Vous ne savez pas exactement ce que vous allez manger, mais vous savez que c'est bon, agréable et parfait. Enfin, bon, là, c'est une drôle d'image, mais voilà, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Donc, en cherchant à être mieux ou plus dans sa volonté, ça devrait être plutôt, ça devrait nous donner envie. Un autre verset qui dit la même chose avec la même expression, Hébreux 12, verset 28. Et ça, c'est les trois versets qui viennent à l'esprit, on les connaît par cœur. Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bon, déjà, on commence à aller sur un terrain où on aime un peu moins. Avec crainte, avec piété, ou là, la piété, c'est des mots qui font peur. Là, on voit un truc ancien, la piété, les gens pieux. Non, ce n'est pas péjoratif du tout. La piété, c'est tout ce qui nous rapproche de Dieu. C'est ne pas faire certaines choses qui déplaisent à Dieu, et c'est en faire certaines qui plaisent à Dieu. Et dans cela, s'approchant de lui, être mieux conduit, être mieux enrichi de ses grâces. Voilà, c'est ça. Et là, tout à l'heure, je vous disais, c'est par les compassions de Dieu. Là, c'est une autre raison qui devrait nous pousser à faire ainsi. C'est montrons notre... Non, lisez, on l'a lu. Reconnaissance. Oui, amour, bien sûr. Mais là, le mot qui est employé, c'est reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi ? Ben, c'est qu'on a fait quelque chose pour nous et on veut dire merci. On veut montrer notre reconnaissance. Quelqu'un a fait des sacrifices pour nous, quelqu'un a fait des choses grandes et bonnes et belles pour nous. On veut lui montrer notre reconnaissance. Tout à l'heure, on a vu la compassion de Dieu. Là, on voit la reconnaissance. Ce qu'il a fait pour nous, il a tout donné. Il a donné sa vie, il a donné son fils. C'est la moindre des choses, comme on l'a vu tout à l'heure, culte raisonnable, que de lui montrer notre reconnaissance. On se bagarre avec les enfants pour leur dire « Dis merci. Dis merci à mamie qui t'a fait ce beau cadeau. » On va prendre le salut, on va être sauvé et partir dans le monde en disant « Ça y est, je suis sauvé. » Mais qui ferait ça ? Ben, certains le font. Qui se font baptiser, puis le lendemain de son baptême, disparaissent dans la nature et vivent leur vie comme des païens. C'est comme ça qu'on montre sa reconnaissance, en prenant et en disant ni merci, ni en montrant notre reconnaissance par notre vie. Voilà pourquoi, là il est dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Voilà ce que le Seigneur nous donne, non seulement le salut, mais il nous assure un royaume inébranlable, la gloire éternelle. Il nous assure que ces corps fatigués, un jour, seront glorifiés, qu'on partagera l'éternité avec lui qui nous a aimés, qu'aujourd'hui, on est à peine en train d'effleurer un peu de ce qu'il a donné. Et pour l'éternité, on va voir ce royaume inébranlable que rien ne peut abîmer. Et parce que le Seigneur nous le promet, que nous allons le recevoir, même, c'est même pas que nous allons, c'est recevant. On le reçoit. Ce royaume est déjà commencé. C'est pour ça qu'on ne peut montrer que notre reconnaissance. Vous voyez, enfin, être un parfum agréable à Dieu, faire quelque chose pour lui plaire, ça n'est que de la reconnaissance. On ne va rien mériter. On n'a rien mérité. Il nous a fait un cadeau gratuit à nous. On a tout reçu. On ne peut faire que des choses par reconnaissance. Un culte qui lui soit agréable. Et là, un culte, ça veut dire ce dimanche matin, on va lui faire un culte qui lui plaît. Oh là là, mais il y a eu un problème informatique, donc il ne doit pas être content. Ça ne s'est pas bien passé, on a commencé en retard. Et puis les chants, ce n'était pas ce qu'on avait prévu. Et puis peut-être que le micro ne va pas marcher, ou peut-être que quand on va chanter... Oh là là, quoi ? Vous croyez que c'est là-dessus que le Seigneur dit oh, c'est mal, hein, la prochaine fois faites mieux. Hein. Oui, il faut travailler de mieux en mieux, bien sûr, il faut régler les problèmes, bien sûr, qu'il faut faire un beau local. Il faut... Ok. Mais ce que Dieu aime, c'est la reconnaissance. Est-ce que de nos cœurs, de nos chants, s'élève de la reconnaissance ou des plaintes et des murmures et on n'est pas content, et parce que ci, parce que là ? Avec piété et avec crainte. La crainte, il y a un passage dans Romains qui dit qu'on a reçu un esprit d'adoption, on ne devrait plus avoir de crainte. Il faut même, la Bible dit, bannir la crainte dans notre cœur. Et là, il dit, il faut lui rendre un culte avec crainte. Bon, mais bannir la peur de nos cœurs. Il nous a sauvés. Il faut l'en remercier. Heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Si on est toujours en train de se dire, ah, est-ce que je suis pardonné ? Aujourd'hui, je lui déplais ? Mais approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Avec assurance. Donc, à un moment donné, il faut bannir la peur de Dieu. Il faut s'approcher à un trône de grâce. Tant qu'on n'a pas compris ça, tant que des églises ou des prédicateurs veulent faire peur aux chrétiens, plutôt que leur donner de l'assurance de leur salut et de s'approcher de lui, ben je pense qu'on ne peut pas... Je ne sais pas, mais j'imagine même un enfant, s'il s'approche de son père avec toujours la crainte qu'il va se prendre, pour je ne sais quelle raison, une gifle, est-ce qu'il va s'approcher avec assurance ? On n'a pas compris ni le salut, ni la grâce de Dieu, ni l'amour du Père, tant qu'on a peur en s'approchant. Donc il faut bannir la crainte. Mais là, ça dit, il faut lui offrir un culte avec crainte. Alors bon, allez, vous le savez, ça veut dire avec respect. Ce n'est pas un petit papa qui va toujours récupérer nos bêtises. On n'a qu'à lui donner un coup de téléphone et papa, j'ai fait des bêtises et il faudrait que tu renfloues mon compte. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est Dieu est Dieu. Et le culte qu'on doit lui rendre, il faut le faire de manière à ce qu'il apprécie. Ça ne veut pas dire qu'on aura fait quelque chose de parfait, mais ça veut dire on va voir ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, avec piété et avec crainte. Avec piété. Les chrétiens qui viennent le dimanche matin, qui n'ont pas lu leur Bible de leur semaine, qui ont passé leur temps à regarder des niaiseries, à dire des niaiseries, à faire... Et puis le dimanche, ils voudraient chanter pour le Seigneur, ils voudraient louer le Seigneur, ils voudraient servir le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne plaît pas à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Semé pour la chair, vous récoltez la chair. Semé pour l'esprit, vous récolterez l'esprit. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Oh, alors là, ça fait peur. Là, ça veut dire, alors quoi ? Ça veut dire qu'il peut me jeter dans le feu ? Non, c'est-à-dire que Dieu fait comprendre qui il est. Il est aussi. Il est un murmure doux et léger. C'est comme ça qu'il veut parler à ses enfants. Mais il est aussi un feu dévorant. N'oublions pas qui est Dieu. Saint, tout-puissant, roi, seigneur des seigneurs, qui, comme ça, peut faire disparaître tous ses ennemis. Celui qui contrôle tout, celui qui peut tout. Et vous savez, ce verset 28, c'est la conclusion du chapitre 12. Vous allez dire, mais c'est bien, je le sais. Mais de quoi parle le chapitre 12 ? Apprenez-le par cœur, retenez-le ce chapitre. C'est un chapitre qui parle de... Chapitre 11, c'est la foi. Chapitre 12, c'est les corrections du Seigneur pour ses enfants. Tout le chapitre parle de châtiment. De châtiment, oui. Pas de condamnation. De châtiment. Relisez-le intégralement. Hein. Je ne vais pas le faire maintenant, mais le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, c'est... Bon, lisez-le. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Bon, voilà, ce n'est pas le sujet du message, mais rappelons-nous ça aussi. Dieu peut nous châtier. Dieu peut nous corriger. Châtiment en vue de notre correction. Et même, rendons grâce à Dieu que ça existe encore. Que Dieu, quand nous nous écartons un peu trop, nous envoie un petit quelque chose pour nous ramener sur le chemin. Des chrétiens ne savent marcher que comme ça. C'est bien dommage, parce qu'on devrait marcher simplement dans la foi, l'obéissance et la reconnaissance et l'amour. Mais on reste humain. Voilà. Et si vous pouvez dire, non, moi, Dieu n'a jamais eu, jamais à me corriger. Ah ben là, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant parce que le texte dit, s'il ne vous corrige pas, c'est peut-être que vous êtes des enfants illégitimes. Si vous vivez dans le péché et qu'aucune correction ne vient, c'est peut-être que ben, vous n'êtes pas un de ses enfants. Donc Dieu ne châtie que ses enfants. Moi, je vais dans la rue, je vois des comportements terribles, je ne vais jamais m'occuper des enfants des autres. La correction revient au père de ses propres enfants, bibliquement. Voilà, donc, ce qui lui est agréable, un parfum agréable, nous participons au partage de l'Évangile par nos vies, par une vie pieuse, sainte, de service, mais c'est aussi des vies offertes à Dieu. Est-ce qu'on peut s'offrir et après dire non? C'est-à-dire, tiens, je te donne ça, mais tu l'utilises quand je te le dis ou comme je te le dis, et si je vois que ça, tu ne t'en sers pas bien, ben je te le reprends. Voilà, c'est facile de dire, ah, Seigneur, je m'offre sur l'autel des sacrifices et ma vie t'appartient. Et après, le Seigneur dit, bon, puisque tu m'appartiens, tu vas faire ça. Ah non, Seigneur. Non. Je pense que la plupart du temps, nous vivons plutôt des prêts à Dieu. Nous nous prêtons à Dieu. Tel jour, à telle heure, plus ou moins, mais prêter. Pas donner. Parce que tant qu'on a des noms dans le cœur, ben c'est qu'on n'a pas donné. C'est tout. Si vous ne vous appartenez plus à vous-même, comment vous pouvez dire, non, là, aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, je vis pour moi. Alors, est-ce que ça veut dire, alors là, je rentre dans un terrain qui fait peur un peu, mais Dieu veut qu'on mange, et pourquoi pas bien manger. Dieu veut qu'on dorme, il veut qu'on se repose. C'est le premier à nous donner des vacances, c'est le premier à voir quand on a besoin. Il n'y a pas de souci, Dieu s'occupe bien de nous. Il ne veut pas nous écraser, il ne veut pas nous affamer, il ne veut pas nous frustrer. Et c'est pour ça que la Bible dit « faites toutes choses, comme pour le Seigneur ou pour le Seigneur, toutes choses, du matin au soir ». Le repos, les repas, les courses, s'habiller, se laver, enfin, faire toutes choses. Dieu ne nous dit pas c'est mal, il n'y a pas des choses, comment dire, ça c'est saint et ça c'est séculier. Enfin, notre vie, c'est un culte à Dieu. Notre vie, offrir nos corps, c'est ce qu'on fait avec nos corps dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois, offrir nos corps. Et Dieu, si on lui offre, ben, il nous connaît, il sait de quoi on a besoin, il sait que des fois on a besoin de se détendre, il sait qu'on est, on n'est pas là tout le temps à fond, à travailler. Il le sait. Moi, je me réjouis de tout ce qui se passe ici, des travaux qui sont entrepris, de la librairie qui a été changée. Mais à la fois, faisons attention, il y a des moments où il faut se reposer. Enfin, on ne va pas changer la face de la terre. C'est très bien, tout ce qui change, mais faisons attention aussi. Voilà. Donc, nos vies offertes, piété, sainteté et corps, oui. On vient de voir ce qui, lui, est agréable. Ça devrait suffire. Mais je vais quand même vous montrer deux ou trois choses qui lui sont très désagréables. Très désagréables. Il y a des parfums, vous savez, dans une pièce, un parfum agréable, on y resterait toute la journée. Dans les lieux les plus jolis, je ne cherche pas de mots compliqués, avec un parfum désagréable, mais on a envie de s'enfuir. Bien sûr. Vous passez dans la rue à Marseille, il y a des endroits, et vous savez ce qui s'est passé. Enfin, avant même de voir ce qu'il y a par terre, ou, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est un petit détail, mais les endroits où on met les déchets organiques maintenant dans Marseille, c'est bien comme concept, parce que ça permet après de faire du terreau, c'est de la récupération, et c'est merveilleux. Mais c'est une odeur pestilentielle quand vous passez à côté de ça. Ouais, parce que vous êtes un peu... Mais si vous vivez dans le centre-ville, vérifiez. Dans le centre-ville, on a poubelles recyclables, poubelle. Et puis maintenant, on a des choses pour mettre les déchets organiques. Vous voyez, c'est bien le concept, c'est-à-dire on récupère ces épluchures. Sauf que tout ça, quand c'est dans un jardin, c'est une chose, mais quand c'est dans la rue, vous avez, c'est grand comme ça. Enfin, vous imaginez le temps d'arriver jusqu'en haut, quand ils vont venir le récupérer, et ce qui se passe, c'est quoi ? Fermentation. Et je vous assure, la fermentation, celle-là, c'est abominable comme odeur. Je me dis, mais c'est gentil d'avoir mis ça là pour sauver la planète. Mais les gens qui habitent là, quand je passe là, je me dis, mais on a des belles intentions. Voilà, je vous ai partagé juste ça. Mais enfin, pour dire qu'il y a des mauvaises odeurs qui rendent les choses... Une mauvaise odeur, c'est terrible. Même si l'endroit est magnifique, la mauvaise odeur nous fait fuir, quoi. Donc, qu'est-ce qui déplaît à Dieu ? On était dans Hébreux 12. Ben justement, dans Hébreux 12, on a un petit quelque chose qui est intéressant. Non, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous servez sans la foi, si vous ne croyez pas vraiment, ou je ne sais pour quelle raison, par peur, vous faites les choses... Sans la foi, il est impossible. Oh, vous dire, mais Seigneur, quand même, j'ai fait ça. Peut-être que je doute à l'intérieur, peut-être que je n'ai pas la foi que ça va servir à quoi que ce soit. Mais sans la foi, il est impossible d'être agréable. Si vous ne faites pas confiance à Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donner tout ce que vous voulez, offrir vos corps, travailler pour lui, donner de l'argent. Mais sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on prie, ce n'est pas pour rien. Si vous priez en ne croyant pas que Dieu va répondre, ça ne sert à rien. Si vous remettez un sujet en pensant que Dieu ne va pas s'en occuper, ça ne sert à rien. Quand il dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis », c'est pourquoi ? C'est pour qu'il en prenne soin. Ce n'est pas pour qu'après, vous soyez toujours aussi terrorisés. Donc sans la foi, l'incrédulité, ça déplaît à Dieu, mais alors à un point. Et vous ne pourrez pas mettre dans une balance tout ce que vous faites et tout ce que vous donnez si dans l'autre, il y a l'incrédulité. Si vous ne croyez pas que Dieu est là, qu'il existe déjà et qu'il agit. Autre chose, 1 Samuel chapitre 15, verset 22, on connaît bien, là, excusez-moi, je suis dans les grands classiques, mais... 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Donc, il faudrait lire tout ce qu'il y a avant. Il était convaincu qu'il faisait bien, Samuel. Alors, en tout cas, quand Dieu va envoyer Samuel pour lui dire « Mais tu es dans la désobéissance », lui il dit « Quoi ? Mais j'ai fait ce que tu m'as dit. Tu m'as demandé d'aller combattre contre Amalek, on y est allé. Tu m'as commandé de dévouer par interdit, on a dévoué par interdit. » Sauf que, dans l'histoire, dévouer par interdit, vous savez ce que ça veut dire. D'ailleurs, on passe au fil de l'effet. Voilà, il y avait des ennemis, Amalek, et Dieu avait dit, tu tueras tout Amalek, et même les animaux, tu les dévoues par interdit. Voilà ce qu'il a dit, même les animaux. Ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, c'est ce que Dieu avait dit. Et lui, il a laissé le roi Agag vivant, et les bonnes bêtes du troupeau, les meilleures, il les a gardées. Alors, après, il discute, il dit, oui, mais c'est le peuple que tu m'as mis, j'ai eu peur que si je ne faisais pas ça, il ne soit pas content. Et puis Agag, pourquoi il a laissé vivant ? Mais c'est le roi, enfin, il a désobéi. Mais j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Il a fait 80% de ce que Dieu avait demandé, mais il n'a pas fait tout ce que Dieu a demandé. Et Dieu appelle ça de la désobéissance. il a laissé le roi ennemi. Et Dieu avait dit, tu ne t'occupes pas de tout ça, tu dévoues tout par interdit. Mais il en a gardé. Alors en disant, c'est pour toi, on va les donner en sacrifice pour te plaire. Mais Dieu n'avait pas demandé ça. Ne cherchons pas à discuter avec Dieu. Si nous ne sommes pas en train de faire très exactement ce qu'il nous a demandé, pas plus, pas moins, c'est de la désobéissance. Et Dieu appelle ça de la résistance. Et il dit, oui, mais quand même, j'ai donné 80%, j'ai obéi à 80% quand même, Dieu, ça va. Les gens autour de moi, ils doivent penser que c'est bien. Et tout le monde pense que j'ai bien fait. Mais Dieu sait, non, non, non. Comme, rappelez-vous, Ananias et Saphira. Ils avaient donné pour Dieu. Oh là là, ils avaient vendu leur terre, ils avaient donné. Mais ils en avaient retenu pour eux. Nouveau Testament. Parce que là, on pourrait dire, oh, là, c'est la loi. Dieu, à l'époque, il tranche. Mais le Nouveau Testament, il est plus cool. Ananias et Saphira, le Saint-Esprit, il les fait mourir l'un comme l'autre. Parce qu'ils ont menti à Dieu. Pas seulement menti aux autres, mais menti à Dieu. Croyant, voulant faire croire qu'ils avaient tout donné. Mais Dieu sait. Dieu sait ce qu'on a caché quelque part. On avait un gros paquet, on en a gardé un dixième. On a fait un gâteau. On n'en a pas gardé un morceau caché, laissé au frigo, pour nous. Donc voilà, il y a des mots qui ne sont pas rien. Quand Dieu dit tout, c'est tout. Et si on lui dit, oui, mais pas tout, tout non plus, il ne faut pas aller dire ça à Dieu, comme si son fils à la croix, il a dit, presque tout est accompli. Certains n'auront pas tous leurs péchés pardonnés. Ce n'est pas tous les humains qui peuvent être sauvés. On ne peut pas dire non à Dieu. On ne peut pas dire moins que ce qu'il demande. On ne peut pas faire autre chose qu'il attend de nous. Mais je rends grâce à Dieu de ça. Je rends grâce à Dieu parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, que ça lui est agréable. Et s'il me demande quelque chose qui n'est pas ce pour lequel j'étais disposé, peu importe. Peu importe. C'est peut-être plus difficile d'y aller, mais après, on a la joie de l'avoir fait parce que ça, lui, est agréable. Et il l'agrée. Alors que tout le reste, il dit, c'est à vomir tous vos holocaustes, tout ce que vous faites pour moi, tant que vous me résistez. Il le dit, c'est pire que la divination. Nous, on regarderait travers les gens. Vous imaginez, là, il y aurait quelqu'un qui viendrait tirer les cartes et faire le machin dans l'église. Oh ben, jamais de la vie. Mais des chrétiens qui résistent à Dieu, là, il y en a un paquet qui disent, bon, j'en garde pour moi quand même. Si Dieu me demande ça, voilà, non, non. Pire que la divination. Voilà comment Dieu appelle la résistance à toute sa volonté. Bon, voilà, incrédulité, désobéissance. Jésus lui-même a dit, mais vous m'honorez de la bouche, mais votre cœur est éloigné de moi. Faire les choses sans amour, sans y mettre du cœur, le faire parce qu'il faut. Vous croyez que ça plaît ? Faire un cadeau qu'on dirait qu'on vous a arraché un bras, comme on dit. Est-ce qu'après avoir fait un cadeau, vous dites, tu as mesuré, Seigneur, ce que j'ai fait pour toi ? Tu sais combien j'ai payé ça ? Oh, on le fait un peu quand même. Hein. Plus ou moins inconsciemment, quand on a fait plusieurs choses pour lui, on commence à tenir la liste, nous aussi, de ce qu'on a fait pour lui et Seigneur. Mais j'entends ça des fois dans la bouche des chrétiens, qui me disent, ça faisait des années que je n'étais pas tombé dans tel péché. Et comme s'ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire de ne pas être tombé dans ce péché abominable dont ils me parlaient. Mais là, je me suis lâché. Mais on ne compte pas les années. Oh, dans le mariage, on compte les années. Mais on dirait que des fois, oh, j'ai tenu bon toutes ces années. Hein, 60 ans. Mais arrêtons. On ne compte pas combien d'années on mange. On a mangé dans notre vie. Combien d'années on a... On ne compte pas tout ça. Oui, il y a des anniversaires, d'accord. Bon, mais ce n'est pas pour dire, ouais, j'ai bien tenu. Hein. Ça fait 60 ans que je vis, hein, 60 ans que je mange, 60 ans que je dors. Maintenant, je vais me laisser aller un peu. Mais quoi On n'a pas à tenir la comptabilité du passé. C'est un culte raisonnable, c'est tout. Ah, j'ai donné, Seigneur. Tu as vu cette offrande que j'ai faite pour toi ? Je répondais à un frère, encore hier, mais qu'est-ce que tu vas donner au Seigneur ? Tu fais que rendre. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu ? Ah, j'ai chanté, ah, j'ai prêché, ah, je suis parti à l'étranger. Ah, remercie le Seigneur qui va eu bien utiliser un peu de toi, plutôt que laisser dans un coin à rien faire. Moi, je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il nous donne à faire. Je rends grâce à Dieu, c'est d'une vie vide, sans intérêt, d'avoir des choses qui comptent pour l'éternité. Alors oui, il y a un petit effort, c'est normal, il y a du travail, il y a de l'opposition et tout ça. Mais on n'a fait que ce qui est raisonnable. Et on ne fait que rendre. Qu'est-ce qu'on a de nos jours que j'ai mérité de vivre aujourd'hui ? Voilà. Donc Colossiens chapitre 1, verset 9 et 10. Alors deux versets pour terminer. Colossiens chapitre 1. Alors j'espère que vous ne percevez pas ce message comme un message sévère. J'aurais pu m'en tenir à l'aspect très... Mais au moins, voilà. Il y a deux manières de faire une forme. Vous mettez des points à l'intérieur ou vous les mettez à l'extérieur et vous voyez que là où il n'y a rien, vous voyez la chose à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin, Colossiens chapitre 1. Allez, il faut que je retrouve, parce que je crois que... Vous voyez, j'ai plus l'habitude maintenant avec tout ce qui est projeté sur les murs. Allez, j'y arrive. Philippiens, Colossiens, chapitre 1, verset 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa... Enfin, on ne va pas tout relire, c'est tout un... Mais lui être entièrement agréable. Vous connaissez ce frère, là, il y a des livres en bas de lui, qui est né sans bras et sans jambes. Il est marié, cet homme, avec une jeune femme qui, elle, a des bras et des jambes. Et je me dis, bon, c'est quelque chose quand même qu'il se soit marié, c'est magnifique. Mais juste, j'ai entendu sur un court passage où il parlait, cet homme. Et il disait, moi, des fois, il m'arrive d'aller voir ma femme, pas seulement à l'anniversaire, hein, d'aller voir ma femme et lui dire, chérie, qu'est-ce que j'ai en moi, des manières de faire ou d'être, qui ne te plaît pas, que je pourrais changer ou arrêter pour te plaire. Il faut oser, hein ? Il faut aimer, mais des fois, il faut s'aimer moins pour arriver. Il faut aimer l'autre plus que ce qu'on s'aime soi. On s'aime, hein ? Vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de se forcer pour s'aimer. On en est tous là. Mais oser dire à son conjoint qu'est-ce qui en moi te déplaît ? Est-ce que vous avez déjà posé cette question à votre conjoint ? Bon, je ne vous demande pas de répondre, ne levez pas la main, c'est à vous de savoir. Ou quelqu'un que vous aimez. Mais je trouvais ça fort. Il avait trois questions, hein, mais celle-là, demandez Seigneur. Il demande aussi, chérie, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse et que je ne fais pas encore pour toi ? Voilà. Ben avec le Seigneur, est-ce qu'on lui pose cette question ? Ou on a peur qu'il nous dise quelque chose qui ne nous plaît pas à nous, mais qui lui plaît à lui ? Ça m'arrive hein, quand je prépare un repas. Enfin, je prends le risque de demander est-ce que tu préfères. J'ai fait ça l'autre jour avec des sauces, enfin, avec mon frère et sa compagne qui étaient là. Il y avait deux sauces. Moi, je savais que j'aimais celle-là et j'avais peur qu'ils aiment plus l'autre. Mais c'était l'autre. Ben, voilà, on a pris l'autre. Combien de fois nous demandons au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma journée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Que vous discerniez quelle est sa volonté, que vous soyez remplis de toute la connaissance. On peut toujours en savoir plus, non, sur ce que le Seigneur attend de nous. En savoir plus sur ce qui lui déplaît en nous. Voilà, alors que Dieu nous fasse la grâce, allons-y avec un cœur sincère. Seigneur, qu'est-ce qui te déplaît et qu'est-ce qui t'est agréable? Je suis prêt à entendre. Et j'ai bien aimé les chants de tout à l'heure, hein, « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien » ou le second chant, c'était quoi? Non, c'est pas difficile. En fait, si on a compris que c'est agréable, moi, parce que voilà, c'est plus agréable toujours de faire ce que Dieu attend de nous que de faire ce que nous avons envie de faire. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas bien compris qui est Dieu, combien on lui doit tout. Ben, c'est une habitude à prendre. C'est un pli à prendre. Le pli, David n'était pas parfait, il a chuté, mais David avait un pli qui plaisait à Dieu. Il s'en est écarté une ou deux fois, et ça a été la catastrophe. Mais il y a une phrase. David consulte à Dieu. Est-ce que tu veux que j'aille par là? Est-ce que tu veux que je fasse ça? Est-ce que je dois aller au combat? Consultez Dieu. Plutôt qu'en faire plus en se disant, Dieu prendra ce qui lui plaît et il laissera le reste. Consultez Dieu dans votre journée, au quotidien. Consultez Dieu, demandez-lui son avis. Est-ce que tu veux que j'aille me marcher, me promener, ou est-ce que je dois continuer à lire? Est-ce que je dois me reposer? Est-ce que je dois me détendre? Consultez Dieu. C'est ça la relation. Lui demander son avis. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse.